Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bonsoir. Nouvelle émission de récréation sonore sur Radio Campus Paris 93.9. Muriel Caes au micro ce soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une de mes créations. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette pièce, qui s'appelle « Les Essoufflés », date de 2024.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Quelques années après le Covid, j'ai eu envie de faire dialoguer des jeunes de deux générations touchés par des épidémies, des jeunes de 2020 et le Covid, et des jeunes des années 50 touchés par la tuberculose. Ils ont vécu les choses différemment et ils en parlent chacun à leur manière. Voici donc les essoufflés.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Parler de pandémie, j'en ai connu trois. J'ai connu la tuberculose, je vous raconterai tout ça, c'est important dans ma vie parce que c'était une maladie contagieuse et mortelle qui faisait peur. Et ensuite, j'ai éprouvé la même chose pour le sida, et même chose maintenant, et avec le même rejet de l'environnement.
Quand le Covid est apparu dans nos vies, il a apporté avec lui des mots qui ont résonné dans ma mémoire. Épidémie, contagion, quarantaine. Mon histoire est née elle-même au sein d'une épidémie et en quelque sorte grâce à elle. Quand ma mère raconte sa rencontre avec mon père, ça donne ça.
La première l'image que j'ai, mais très très gravée, c'est puisque j'étais en cure intégrale, mais à Sainte-Fère, j'ai pratiquement été toujours en cure intégrale, c'est-à-dire toujours dans ma chambre. Et donc, les jeunes, ils venaient me voir. José était venu, et il était sur le balcon. Et c'est notre première, ça doit être la première fois qu'il m'a embrassé, sans doute. Voilà. On était très amoureux. On se tenait toujours la main. Toujours la main.
Vous l'aurez compris, José est quelque temps plus tard devenu mon père. Mes futurs parents étaient malades tous les deux. Ils se sont rencontrés à Sainte-Fère, dans la Creuse, près de Guéret, au sanatorium des instituteurs. Un sana, comme on dit à ce moment-là, est un lieu où on tente de soigner les malades tuberculeux et aussi de les isoler, car c'est une maladie hautement contagieuse. On est alors en 1953, la tuberculose tue encore 4 millions de personnes par an dans le monde et près de 40 000 en France. Et l'on attend avec impatience les traitements par antibiotiques pour remplacer la chirurgie. Après la crise du Covid, j'ai eu envie de faire se rencontrer des paroles de jeunes. On se souvient bien de ce qu'a été le Covid, mais que reste-t-il des souvenirs de la tuberculose qui a touché tant de jeunes jusque dans l'après-guerre? On a oublié ce que cette maladie représentait dans l'imaginaire collectif et dans la littérature, qu'il appelait phtisi, voire maladie romantique. Alors en quoi le vécu de la maladie est différent pour des jeunes, ceux des années 50 et aujourd'hui? Je suis retournée à Sainte-Fère, au SANA, comme on disait alors, qui est maintenant une clinique. J'ai cherché et rencontré d'anciens malades, de ceux qui avaient la vingtaine dans les années 50. Et j'ai aussi demandé à des lycéens d'aujourd'hui de me dire par le son comment ils ont vécu le Covid. Les essoufflés, paroles croisées de jeunes sur la maladie. Avec Monique Sanchez, Jacques Bourgon, Jacqueline Barre-Langlen, ancien malade tuberculeux des années 1950, et Christian Pinet, ancien animateur du SANA, maintenant retraité. Et Anaïs, Mélissa, Orsay et Tom, du lycée Pierre Bourdan à Guéret.
Ce qui m'a le plus embêtée, c'est de ne pas pouvoir aller au bal.
Monique, ma mère.
J'avais 17 ans. Quand je suis rentrée, on était déjà à l'école normale. Quand on a passé une visite médicale, et j'ai appris que j'avais une primo-infection. La directrice avait convoqué mes parents à l'école normale donc, de ma campagne. Ils ont eu les jambes coupées. Moi, j'ai pas eu l'impression que ça m'a tourneboulé. J'ai pris ça, on en parlait tellement que j'ai pris ça d'une bonne façon. Et tandis que mes parents n'avaient plus de jambes, les pauvres. J'étais à la maison, ce qui n'était pas marrant du tout, parce qu'on m'avait dit qu'il faut sortir et il faut beaucoup manger. Alors, tous les jours, j'allais jusqu'au moulin à la Haute-Ville et puis je marchais avec ma chatte qui s'appelait Jipette, parce que c'était tellement la mode des jeeps à ce moment-là.
C'était comme si on avait été une pestiférée.
Jacqueline.
Quand on s'est rendu compte que j'avais cette maladie, oh là là, la famille, tu sais, avait une frousse terrible. C'était terrible, hein, fallait l'isolement. Mais ils avaient peur. Je pense que ça faisait peur aux générations de mes parents. Je pense.
On devient fou là-dedans, vous ne trouvez pas? Non mais franchement, résumons. Bref, j'étais tranquillement chez moi quand le président a parlé.
Nous sommes en guerre.
Alors, à ce qu'il paraît, il y avait un virus mortel dehors, et pour protéger les gens, il fallait rester chez nous.
J'avais exactement 21 ans.
Jacques.
Vous voyez, la tuberculose a modifié ma vie parce que je me considérais comme handicapé après. Je savais que j'aurais une existence diminuée et pas trop longue.
Qu'est-ce que c'était quand on avait 21 ans et qu'on avait la tuberculose?
C'était un pied dans la tombe, hein. Et l'autre sur une peau de banane. Hein. Et mes parents, enseignaient, et moi j'enseignais après une chose, l'hygiène, c'est-à-dire il y avait dans ma classe affiché l'alcoolisme. Alors il y avait le foie de l'homme normal, le foie de l'homme cirrhotique. Et puis la tuberculose, il y avait un truc sur la tuberculose aussi, hein, avec les poumons pourris, c'était pas mal comme truc. Alors moi j'avais ça en tête quand j'ai appris la chose. Ben, la vie est belle, vous savez quand même, putain, la vie est belle.
La tuberculose tue encore 10 000 Français par an. Aussi importe-t-il d'instruire le public, dès l'école, mais aussi après, des moyens de l'éviter et de s'en défendre. D'où l'importance de l'information et de l'éducation sanitaire en ce domaine. C'est sur ce thème que vient d'être lancée la nouvelle campagne du timbre antituberculeux, remis par Georges Duhamel, président du Comité national de défense contre la tuberculose, à M. Chenot, ministre de la Santé publique.
Et la tuberculose, faut bien le dire, on va bien le reconnaître, c'était une maladie que l'on avait peur d'attraper. Hein, dessus, il y a une anecdote sur la Seconde Guerre mondiale. Il y avait sur l'entrée donc, du sanatorium, à la grille, comme on appelle ça, il y avait des croix de Lorraine qui étaient gravées sur les deux pignons, enfin, sur les deux poteaux de la grille. Et c'est le docteur, on l'appelait le Doga, qui a éloigné une troupe d'Allemands, hein, en leur disant que ceci représentait la tuberculose. Voilà, et ça c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors il y a café, court, café
espresso. Un long sans sucre.
Long sans sucre, c'est parti. Je m'appelle Christian Finet, j'ai fait partie du service animation dans cet établissement durant 15 années. Je suis rentré ici en 1983. Ça, je suis pas trop. Alors ici, nous sommes au sanatorium de Sainte-Fère, donc l'ancien sanatorium des instituteurs. Début des travaux en 1904, ont été achevés en 1906, et les premiers résidents qui sont arrivés ici, pardon, les premiers patients, et la première patiente est une femme. Alors, au départ, c'était un sanatorium. Ça a été construit parce que bon, il y avait une recrudescence de la tuberculose et ils ont décidé donc de construire un sanatorium dans la commune de Sainte-Fère, côté plein sud, voilà, qui était important. Donc c'était pour les cures d'air et tout, l'exposition donc qu'il fallait. Et devant nous avions donc une forêt de sapins et tout qui était donc bon pour la respiration, bon pour les bronches. Voilà pourquoi il a été construit donc ici à 400 mètres d'altitude.
On m'avait dit que je partais pour un mois.
Un sentiment d'isolement et d'angoisse pourrait vous saisir au sortir de la gare, si chaque arrivée n'était soigneusement préparée. Une présence, un sourire, avant même les deux bras qui empoigneront vos valises, marque le ton d'un accueil qui est déjà une thérapeutique.
Et puis, la première visite, on m'a dit que j'en avais pris au moins pour un an.
Date et lieu de naissance.
29 avril 1951.
Oui,
en quel endroit ? À Vizerne.
Il faut dire qu'à cette époque-là, les malades restaient plusieurs années. Voilà, moi, quand je suis arrivé donc, ici, il y avait encore des malades qui, moi j'en ai connu un, que ça faisait 8 ans qu'il était là.
Donc j'ai décidé d'aller à Sainte-Fère parce que mon père était dans l'enseignement. Et pour moi, je dois dire que ça a été presque une bouffée d'air, hein. Ah oui, ça n'a pas été du tout une corvée. J'étais coincée à la maison. Fallait voir personne, fallait faire attention à tout. Fallait. Là, on était évidemment, on était tous sur le même plan. Hein. Moi, c'était une bouffée d'air par rapport à l'étouffement que je pouvais avoir ici. Et en plus, il faut dire, par rapport à la maladie, on ne souffrait pas. Alors, c'était déjà une grosse chose. C'était. Les autres, je ne sais pas, mais les jeunes, là, on était tout un étage de jeunes, à peu près le même âge. Mais quand mes parents venaient, même à Sainte-Fère, ils avaient tellement la frousse, et ben, mes parents, ils ne rentraient pas. Hein. Il fallait que je prenne sur le parking. Alors pour moi, c'était, je vous dis, vraiment une certaine liberté.
Ce moment-là, les gens sont devenus vraiment parano. Un jour, je faisais mes courses et là, tout le monde s'est retourné vers moi. Et ils ont tous pris leurs jambes à la roue. La Covid, c'était vraiment un temps étrange. Alors on pouvait sortir, mais que pour des raisons spéciales, comme promener son chien ou faire son jogging.
Quand on t'a annoncé le premier confinement, comment est-ce que t'as réagi ?
J'étais assez content parce que j'ai jamais vraiment aimé l'école, mais après d'être séparé des gens dans un contexte aussi particulier, quand c'est pas les vacances et tout, forcément on sait pas trop à quoi s'attendre, donc j'étais un peu confiant on va dire.
Et au bout de plusieurs semaines ?
Moi j'étais toujours pas perturbé, tout ça, je le vivais assez bien, après je me suis trouvé des passions, tout ça, donc c'est passé assez vite on va dire.
J'avais hyper peur de sortir en fait, de mars à mai j'ai dû sortir 4 fois. En tout, mais genre vraiment en tout.
Alors ce confinement, au début, je l'ai bien vécu. Par la suite, ça a été compliqué. Avec mon frère, on s'entendait pas trop. Et bah, mes copains me manquaient.
Pendant le premier confinement aussi, je me suis mis à TikTok. Je me suis vraiment créé mon monde et c'était, ça me permettait vraiment de me détacher de la réalité du moment, donc le confinement avec lequel j'avais quand même du mal. Et du coup, ça me permettait vraiment d'aller autre part, etc. Et c'était vraiment hyper important pour moi, en fait, de pouvoir me détacher un peu du fait que j'étais enfermée dans ma chambre.
Donc en bref, on a confiné, puis on a déconfiné, puis on a reconfiné, puis on a vacciné, puis on a revacciné, puis on a revacciné, on a enlevé les masques, on a remis les masques, on a remis les masques. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, il y a une pandémie.
Et puis alors les gens en parlaient, ils en parlaient avec une certaine dérision, si vous voulez. Peut-être pour se protéger eux-mêmes. Moi, je me souviens quand je suis arrivée, je ne sais même pas ce qu'ils voulaient dire. On m'a dit, ah, t'as combien de patates ? Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, les patates, c'était... Alors, ils prenaient ça comme ça, la légère, je ne savais pas ce que c'était. Eh bien, la patate, c'était les cavernes.
Moi, ce n'était pas un mauvais souvenir, Sainte-Claire. J'avais pas de... Vous savez ce que c'est qu'une caverne ? Que je vous explique. Votre maman, elle avait une caverne. Elle est vivante ? Oui, elle, dont elle a bien survécu. Je l'embrasse, votre maman. Parce que vraiment, elle a vécu, je vois ce qu'elle a vécu. Alors, sujet médical. Mon copain de Haute-Savoie, lui, il a eu une caverne. C'est-à-dire un endroit où les bacilles bouffent et ça fait une caverne. On voit un trou dans les poumons. Et, les petits, et puis là, il y a ce sentiment que j'ai eu aussi, que les bacilles vous entendent vous grignoter.
Voilà, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on soignait donc la tuberculose et la maladie des poumons par l'air.
Au milieu, ancienne cure d'air, mais celle-ci avait aménagé, avec des bureaux et tout, et la cure d'air qui est restée dans son jus.
Pour l'après-midi, pour la sieste, on allait dehors, on était sur un... Se allonger dehors en plein air, quoi.
Voilà.
Donc on se couvrait, on avait une doudoune en quelque sorte, et on se couvrait.
L'air, la nourriture, les siestes, les activités physiques et les marches. Ces cinq choses-là étaient obligatoires. Voilà ce qu'il fallait faire.
Je vous parle de ça médicalement. Les degrés de gravité de la maladie, exposé médical. Hein. La caverne se trouve, par exemple, dans un endroit accessible, dans le dos, par exemple, souvent. On faisait une spéléo. Vous allez voir, spéléo, c'est quoi ? On ouvre. Vous êtes assise. Hein. On ouvre. On ouvre. On découpe. On atteint la caverne entre les côtes. On badigeonne de l'antibiotique avec un coton pour tuer les bacilles. On referme, on fait le pansement et on recommence plusieurs fois par semaine. Et on arrive à juguler les cavernes.
J'avais les poumons étaient infectés partout. Pour me soigner, on m'a insufflé. On décolle le poumon de la plèvre et on injecte de l'air entre la plèvre et le poumon. Tous les jours.
J'ai pas fini. Mon copain de Léon, qui était tubard aussi, qui lui était gravement atteint. On lui sectionne, je m'excuse des détails, on lui sectionne une ou deux côtes, le poumon n'étant plus retenu, s'affaisse, et la caverne s'aplatit. Alors, l'étape importante, après, c'était donc l'ablation d'une partie du poumon. Et à gauche, côté du cœur, il y a deux lobes, à droite, il y en a trois. On peut enlever un lobe. J'ai connu un ancien combattant de la France libre, un Breton. On lui avait fait l'ablation des deux lobes du bas et il avait un sommet pour vivre. C'est-à-dire qu'il avait un litre de capacité pulmonaire. Moi, avec ma petite stature, j'en avais 4 litres. Il y en avait qui avaient 5 ou 6 litres de capacité pulmonaire. Lui, il vivait avec 1 litre.
La peur de cette maladie s'explique aussi par le fait que jusqu'à l'utilisation des antibiotiques, en 1946 la streptomycine, on traitait la tuberculose en mettant en repos les poumons par des pneumothorax et quelques autres traitements chirurgicaux assez mutilants et relativement efficaces. À vrai dire, à part 20% de malades qui guérissaient spontanément, les autres mouraient plus ou moins rapidement après avoir souvent contaminé leur entourage.
Moi, je ne me souviens pas, enfin, tout au moins à notre étage où nous étions, je vous dis, la même génération, je ne me souviens pas d'avoir eu une mortalité. Alors, s'il y en avait, c'était dans les rescapés d'avant les antibiotiques. Là, il y en avait qui étaient vraiment passés au travers et qui étaient assez amochés. Hein.
Et puis, il y a eu l'apparition des antibiotiques.
Moi, j'étais atteinte, bien entendu. Bon, j'ai eu le traitement, comme tout le monde, des antibiotiques de l'époque. Bon, je suis restée 15 mois, et puis après, c'était fini. Vous voyez, j'avais 20 ans, j'en ai 85. Bon, ça va, je ne peux pas me plaindre, hein. Il y a pire.
Et donc, j'avais des piqûres tous les jours. Et puis, il y avait un interne qui buvait de temps en temps. Et bien, quand il faisait les piqûres qui venaient, quand on le voyait arriver, on aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre.
Alors, moi, j'ai eu la cure intégrale, mais qui n'a duré que 3 mois. Cure intégrale, vous savez mieux que moi, je n'ai pas besoin de vous en parler, hein. C'est-à-dire la perfusion quotidienne de 9h à midi ou de 9h à 11h, parfois 1 litre, cure intégrale, repas en chambre. Cure silencieuse de 2 à 4, obligatoire, même pas de radio, même pas de parler aux voisins de chambre, silencieuse, cure silencieuse. C'était vérifié, ouverture de la porte sans frapper.
L'après-midi, alors, c'était la sieste, là, très respectée aussi, je pense. Et puis après, il y avait une heure de récréation, si je puis dire. Et après, il y avait une dernière cure de repos. Et puis après, quand vous alliez un peu mieux, on était libre, on vous dispensait de la dernière. Alors là, on était très libre, on sortait. Bourgon, là, il avait une voiture, une 4 chevaux à l'époque, c'était là. Alors, on sortait, on était libre. Je vous dis pas qu'on sortait tous les jours et qu'on faisait la grande fille, mais on sortait, on allait à Guéret, on prenait même un café dans un truc. Mais on sortait, hein. On sortait.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous.
Thé dansant annulé. Représentation théâtrale annulée. Fête patronale annulée. Concours de pétanque annulé. Moule frites annulée.
Enfin, tout ce que le confinement m'interdit, c'est tout ce dont j'ai besoin dans la vie, c'est-à-dire voir mes amis et passer du temps autre part qu'entre mon école et chez moi.
On l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le répéter.
C'est de rester chez soi.
C'est pourquoi, tous ensemble, on vous demande de rester chez vous.
On compte sur vous, sauvez des vies, restez chez vous.
Restez chez vous.
Restez chez vous.
Restez à la maison.
Restez chez vous.
Restez chez vous.
Restez chez vous.
Restez chez vous.
Ouais, le confinement fait que mes études, elles sont hyper théoriques. Là où normalement, je visiterais des ateliers, je visiterais des musées, on ferait plus de trucs, en fait. Et là, on est hyper bloqués. Et y a une fille de ma classe qui a dit l'autre jour, mais vous vous rendez compte qu'on vit pas du tout la vie étudiante classique. On n'a pas fêté nos 18 ans. Et on n'a pas du tout l'entrée dans la vie étudiante que toutes les générations avant nous ont eue. C'est hyper impactant, je pense, et ça aide pas du tout à se projeter.
Ça a perturbé ma vie sociale, surtout sur le plan du rapport aux autres. Donc oui, le rapport social, parce que j'étais un peu devenu timide, j'avais du mal à demander de l'aide aux gens, tout ça. Et du coup, j'ai vraiment remarqué ça dès que j'ai re-eu des contacts avec des gens, tout ça. Mais c'est vraiment le seul point que j'ai remarqué négatif du confinement.
Moi, je vous dis encore une fois, je me suis bien adapté parce que par rapport à mon milieu familial qui était très, très strict et embêtant, j'avais une certaine liberté et puis on était tous dans le même bain.
Non, mais à Sainte-Fère, il y a un avantage énorme. Ah oui, c'était un microcosme, parce que la population et de Sainte-Fère et de Guéret vivaient du Sana. Donc, nous n'étions pas des parias. Quand il y avait une fête villageoise, un bal, avec Makatcheo Renaud, on allait au bal de village, mais les filles adoraient danser avec nous. Elles savaient qu'on n'était pas condamnés à mort. Nous étions, nous les jeunes, on était appréciés par les jeunes filles qui voyaient là un moyen de quitter la Creuse et de partir ailleurs. Ça leur ouvrait les yeux sur un autre monde et nous étions la bouée de sauvetage.
Voilà. Ouh! J'ai posé le matériel de reliure, vous voyez. Ça, c'est l'exposition que j'ai faite quand j'ai fait les patrimoines, j'ai tout laissé là. Matériel de reliure. Là, ici, pour faire donc, les reliures, tout ça et tout. Ça, ici, pour les tenir, les livres, vous voyez. Vous voyez déjà. Qui ont créé tout ça. Ah. Et qui ont relié tous ces livres, qui vous voyez.
J'ai fait de la reliure à Saint-Fer. On nous en prenait, quoi. C'était intéressant, moi j'aimais bien. Comme j'aime beaucoup les livres, on allait à l'atelier de reliure. Mais tout ça était géré par les malades.
C'est très vieux tout ça. Ah. Dès qu'il y avait un livre et tout, donc hop, il était répertorié. J'ai tous les livres de registres, les registres de la bibliothèque, je les ai tous.
Quand j'ai encore deux livres là-bas que j'avais fait. J'en ai jamais fait. Mais c'était très bien.
Je range tout, donc je sais où que c'est. Si ça n'a pas été enlevé, voilà, et voilà. Allez, ça, ce sont tous les registres. Alors, celui-là, c'est le vieux. Alors, pour ouvrir 73. 88, vous voyez, on arrive là, tout ça, c'est moi qui les ai marqués, qui les ont marqués, là, pas mal. Voilà, et la fin de ce qu'on a marqué, c'est là. Voilà. Donc, nous avons au sous-jour d'aujourd'hui 27 326 ouvrages dans la bibliothèque. Oui, ils sont classés en montée.
J'ai vu la bibliothèque sur Internet, j'ai revu les bouquins. Ce sont des bouquins reliés par des malades. C'est très instite, ça, la reliure.
Voyez déjà. Voyez le premier livre qui est rentré en 1947. Le 21 mai 1947 a rentré le premier livre. C'était Germaine. Voilà. Un livre de Hachette. Des éditions Hachette. Voyez. Très bien. Donc là, elle a un paquet. Et là, nous avons donc le fameux livre qui était tenu aussi par les instituteurs et puis les gens qui s'occupaient. C'est le livre des statuts de la bibliothèque. Vous voyez, tout est là-dedans. Ah, c'est un livre qui est très très vieux. 59, 56, 53. Voilà. Regardez ça. Je vais boire mon café maintenant.
Alors, examen des propositions d'achat. Radio Beka, le comité se prononce à l'unanimité pour l'achat d'un micro omnidirectionnel à forme courante, prix avec transformateur, 40 000 francs environ.
Il y avait une radio, Radio Beka.
Radio Beka comme Beka bacille de Koch, et qui est la bactérie responsable de la tuberculose, découverte par l'allemand Robert Koch en 1882.
Et j'osais y participer. Une radio qui retransmettait de la musique ou des infos ou bien bon.
Oui, Radio Beka. Il n'y avait pas de FM à l'époque. Hein. Donc c'était un émetteur à petites ondes qui avait une portée de quelques centaines de mètres, simplement. Alors on avait un vague studio avec le matériel, le micro, les boutons de réglage, mais c'est moi qui le faisais, on était deux. On avait choisi un petit refrain musical, qui annonce, qui scandait un peu les émissions. Ah, je pense pas qu'on enregistrait à l'époque, il n'y avait pas de bande magnétique à l'époque. C'était uniquement des disques, des 33 tours. Je crois qu'on les mettait pendant une heure, mettons le jeudi de 10 à 11, ou un truc comme ça. Hein. C'était tout. Hein. Mais c'était assez écouté. Et alors, en plus, on pouvait, par exemple, louer un poste de radio, parce qu'il n'y avait pas de transistor. Ça n'existait pas. Transistor est arrivé un peu plus tard. Et donc, Beka, Radio Beka avait une fréquence... dans les petites ondes. Hein. On avait, bien sûr, Radio Luxembourg, Europe 1 existait, hein, France Inter, ça s'appelait Paris Inter. On avait Paris Inter sur les grandes ondes. On avait aussi la BBC. Hein. Les gens l'écoutaient, on diffusait des avis aussi, parfois, les spectacles, le film. Parce qu'il y avait le film en 16 mm. Alors, le film en 16 mm, ben, comme j'étais hyperactif, je m'occupais aussi des projections.
La salle de spectacle, bon, sous la salle à manger, cette salle de spectacle, je l'ai connue avec des lits. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient alitées dans l'établissement, et les personnes, donc, on les brancardait jusqu'à la salle de spectacle, et ils pouvaient voir, donc, allongés, les spectacles qui se passaient. Il y avait beaucoup d'animations, enfin, entre guillemets, hein, les animations étaient gérées aussi par les malades. Les malades, les instituteurs et tout, avaient un savoir qu'ils transmettaient aussi à d'autres. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges. Les couloirs, c'était des lieux de vie ici. Les couloirs, ils étaient plus grands et c'était des lieux de vie. Il y avait des fauteuils toujours, il y avait des tables, on y jouait aux cartes, on y lisait, voilà. On ne sortait pas de son couloir, parce que les couloirs, il y avait le couloir pour les gens qui étaient malades plus ou moins, donc voilà. Mais on restait dans son couloir, on pouvait sortir, aller voir les autres, ce qui était très très bien. Et il y a eu beaucoup d'échanges. Et c'était un lieu de vie, on servait les gens, même dans le couloir, à 4 heures, quand on leur donnait une collation, bah, ceux qui voulaient dans le couloir, on les servait dans le couloir.
Le thermomètre, le mouchoir, ça c'est pour mettre vos médicaments, ça vous connaissez.
Tiens, les essieux font salon.
Et oui, d'ailleurs.
On fait comme on peut, quoi.
Pourquoi ? Vous êtes bien ici, vous êtes revenu voir les camarades, vous êtes de différents étages.
Ah oui.
C'est du premier. Et qui est-ce qui triche ?
On
trouve.
Oh, malin, là. Si on voit pas les potes.
Ah, bien.
Je passe.
Ça vous fait passer le temps. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas descendre à la salle de jeu.
Non, il n'y a plus de souffle.
Il n'y a pas d'endroit assez de souffle. Hein. Mais ça reviendra le souffle.
Comme sur vous, docteur.
Allez, bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Claire.
Tout ça était géré par les malades. Au départ, il y avait quelqu'un qui s'occupait de la chorale. Toujours les malades, d'ailleurs. On jouait la pétanque. Il y avait les concerts. Et il y avait une espèce de conseil d'établissement qui était tenu, mais par les malades aussi. Mmh. selon vos talents, si je puis dire. Hein. Alors, ce qui fait que les gens étaient quand même occupés.
Personne n'avait cours, en fait. Et j'étais toujours avec mes amis, j'étais toujours beaucoup en lien avec mes amis, puisqu'on était donc tous au lycée encore. Et du coup, on se faisait des visioconférences entre nous, le soir notamment. Donc, on communiquait beaucoup.
C'était une époque, mais encore une fois, dans ce genre d'établissement, c'était fait pour soigner, bien sûr. Et ils avaient mis les moyens. Mais aussi, ils s'occupaient déjà du bien-être des gens. Et je me souviens, les premiers jours d'été, là, le matin, bah, on sortait, on allait à la campagne là, se promener, je me souviens. Là, près d'un étang, là, on allait se promener. Franchement, on ne faisait pas de bêtises. En fait, je vous dis, moi, je n'ai eu de problème, vraiment. Hein. On ne faisait pas de bêtises.
Le problème, c'était de passer d'une vie horizontale à une vie verticale qui consommait davantage d'oxygène. Donc, il y avait une réadaptation. On avait créé dans les montagnes, dans les sanas d'ailleurs, dans les régions respirables, on avait imaginé des postes de rééducation. Il y avait un poste disponible, je l'ai pris, je suis atterri à côté de Font-Romeu, où j'ai passé un an.
Pendant quelques minutes, mettez-vous, si vous le voulez bien, à la place de John. Cet édifice est un sanatorium pour tuberculeux. Comme John, vous avez une démarche allègre, car vous quittez enfin ce lieu. Vous avez retrouvé votre santé. Ayant obéi strictement aux ordres des médecins, vous vous êtes remis. Mais revenons un peu en arrière. Ce que vous allez faire et penser à partir de maintenant déterminera si les sourires qui vous accompagnent se transformeront à nouveau en préoccupations et si ceux qui vous souhaitent bonne chance devront à nouveau vous soigner. La tuberculose, en effet, est une maladie dont les manifestations peuvent se répéter.
On nous avait dit justement de limiter les échanges gazeux au niveau des poumons, donc surtout pas de sport et pas de sexe. Donc, j'ai choisi le contraire, au point de vue sport, pas sexe, hein, aussi, mais enfin. Donc, j'ai choisi le ski à Font-Romeu. Et j'ai fait un pari. C'est le pari de transgresser. Les jeunes ont tous envie. Et moi, j'étais jeune à l'époque, donc j'ai transgressé. Et j'ai fait l'interdit et je m'en suis bien sorti.
Si des soucis d'argent affectent votre morale, si vous essayez de rattraper le temps perdu en vous surmenant, si vous vous laissez troubler par des problèmes de famille, alors vous commencerez l'inévitable voyage de retour et vous serez vraiment malade. Car on a trouvé, il n'y a pas si longtemps, que 50% des tuberculeux sortis de sanatorium, une fois le mal arrêté ou amélioré, avaient vu leur état empirer ou étaient morts dans les 18 mois qui suivaient leur exéate. Des mesures s'imposaient, mais lesquelles ?
Les Pyrénées-Orientales m'ont enchanté. J'aurais dû y rester, d'ailleurs. Les gens de là-bas, c'était comme à Sainte-Fer. Ils n'avaient pas peur des tubards. Les Catalans, et les Catalanes non plus. Ce qui fait que j'aurais très bien pu rester là-bas avec une Catalane. J'hésitais beaucoup. Et j'étais tutor.
Alors, José, il était guéri avant moi, forcément. Et donc, je suis allée voir le Dogua, le Dogua qui était donc le médecin directeur. Et je lui ai dit, voilà, Monsieur Sanchez doit partir la semaine prochaine. Est-ce que on peut retarder son départ ? Et il m'a répondu, je ne vois pas le rapport. Oh là là, alors il a fallu que j'explique. Non. Voilà. Et alors, pour le mariage, bien sûr, on n'avait pas nos parents. José n'avait pas les siens, moi je n'avais pas les miens. J'avais écrit à ma mère en lui disant « Est-ce que tu peux venir ?» Elle me dit « De toute façon, tu as pris ta décision, c'est pas mon avis, notre avis, tu vas te changer, je suppose, alors fais comme tu veux. » Ah, puis c'était très, très bien. Nous, on est donc allés dormir pour notre nuit de noces à Aubusson, voilà. Quand on a raconté à des dames du Sana dans quel hôtel on avait dormi, ils ont bien ri, parce que c'était un hôtel de passe. Et avant de quitter Sainte-Fère, il y a un docteur qui a eu la gentillesse de dire que moi je resterai toujours en maison, toute ma vie en maison de cure. Ça, c'est réconfortant.
Ça a complètement fait bifurquer ma vie, la tuberculose. J'avais un couple de collègues et un jour, ils me présentent la petite sœur, 19 ans, blonde, très jolie. Mais en fait, la fille avait fait un péché mortel. Elle avait flirtaillé, un petit flirt. Panique dans la famille bourgeoise, panique. Il faut la marier au plus tôt. Alors, on la dépayse de Paris et on l'envoie chez sa sœur à Montargis. Avec mission de la marier au plus tôt, et j'ai rien compris, j'étais bête, j'étais con. Et un jour, elle me dit « et si on se mariait ?» Et c'est elle qui m'a demandé en mariage. Et moi, me sentant diminué, la sœur m'a précisé qu'on allait me poser la question du service militaire. Il ne fallait pas que je parle de tuberculose. Vous voyez, c'est important. Et ça rejoint le sida aussi un peu. Il ne fallait pas le dire. Alors, avez-vous fait votre service militaire, jeune homme ? Non, j'ai été réformé. Ah bon, pourquoi ? Attention, un vice caché. Non, j'ai fait une pleurésie. Donc, on m'a bien instruit de parler de pleurésie. Et ça fait basculer ma vie parce que ça m'a fait un mariage, bon, un mariage arrangé. Je me suis laissé avoir. Et puis, elle a compris qu'elle s'était laissée avoir après. Et après, elle a vite compris, et moi aussi, qu'il n'y avait rien qui ressemble à l'amour. Rien qui ressemble à l'amour. Voilà l'influence de la tuberculose. Vous voyez ? Et toute ma vie a basculé à ce moment-là.
Je suis resté quelques mois sans rien faire, parce que je me dis, très protégé là, par les parents. Honnêtement, moi, ce n'est pas moi qui vous dirais que c'était l'horreur, parce que ça l'était, pour moi, ça ne l'était pas. D'abord, on m'a soigné. On m'a soigné, on m'a guéri. Hein, c'est quand même énorme. Hein. Et puis, l'ambiance était pas désagréable du tout pour moi. Attention, dans les années, je dis 50-60, l'épidémie n'était pas telle que le Covid, là, qui a été une traînée de poudre dans le monde entier. Il y a quand même la mort qui planait. Hein. Tandis que pour la tuberculose, moi, telle que je l'ai vécue, je n'ai pas pensé à la mort. Je ne pensais pas que ça pouvait me tomber dessus. Tandis qu'avec le Covid, c'est autre chose quand même.
On ne se rendra pas compte de l'impact qu'a eu c'est l'année 2020, avant pas mal de temps. Et ça, c'est hyper compliqué. Et je pense que je ne suis pas la seule de ma génération à ressentir ça. C'est impossible de se projeter parce que c'est tellement le bordel partout sur la planète que tu ne sais pas ce qui va arriver demain, quoi. Mais je pense qu'il faut en parler, en fait. Parce que clairement, ce n'est pas un truc dont nos esprits vont se débarrasser tout de suite, et ça va rester comme un traumatisme profondément gravé dans nos esprits, quoi. Et vraiment un traumatisme partagé mondialement, quoi. Il faut qu'on s'en rende compte.
J'ai écrit ces quelques mots me prenant pour un fin bretteur de la morale. Ma plume est bipolaire et mon stylo bic pleure. Plein de règles stupides à respecter, un peu innocent mais un peu coupable quand même. Même mes démons, leurs propres démons, je me suis perdu moi-même, ça c'est indéniable. 6 mois où ils n'ont pas compris que personne, personne n'est heureux. Mais on est bien obligé d'accepter la situation. Ma tante et mon frère en réanimation, l'envie de les voir, eux dormeurs insoupçonnés, même plus sûrs d'avoir une âme. Je peins, je dessine et je crée des tableaux pour tuer le temps comme si j'étais Salvador Dali. Le souvenir de chaque fissure de mon plafond pour remplacer ceux qui partent. J'ai l'âge de la raison, le trajet est encore long, mais j'ai perdu 2 ans de ma vie quand d'autres n'en ont pas l'occasion. Sauver tout le monde, c'est pas ma tasse, je suis pas Noé. J'ai grandi, mes émotions aussi, mais il ne faut rien laisser paraître pour n'inquiéter personne. Un mental brisé peut quand même avoir de bonnes idées, comme une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Le bonheur est dans les choses simples. J'ai l'humeur dans les chaussettes. Je ferme les yeux et j'observe avec les oreilles. J'ai besoin de me confier, mais pour l'admettre, je suis bien trop fier. Si j'étais amené à voir un psy, il aurait lui-même besoin d'une thérapie. Des corps inanimés, il y en a plus de 5 millions. L'humain a perdu son humanité. Qui tiendra ma main quand je tomberai dans le vide? Trop de choses à dire, mais je reste enfermé dans cette bulle de savon qui part loin de cette boule de terre. Le bonheur est dans les choses simples. Tant de choses à dire, mais je ne sais pas à qui les dire. J'aimerais partir, mais il est interdit de sortir. Le bonheur est dans les choses simples. Le bonheur ne vient pas à toi. Le bonheur vient de toi. Chose simple. Les petits esprits se taisent quand les grands se rencontrent. Ils prennent les décisions pendant qu'ils gardent une partie. On se facilite la mort quand on se complique la vie. Chose simple.
Merci à Jacqueline, Monique, Christian et Jacques pour leur témoignage. Merci à Anaïs, Mélissa, Orsay, Tom et tous les élèves de la terminale L du lycée Pierre Bourdon de Guéret. Remerciements particuliers à leur professeur Emeline Monville, ainsi qu'à Abdel et Guillaume et Antoine et Hugo pour leur bref et leur slam. Et un grand merci à Julien Sarty pour les sons de respiration. Ce documentaire est dédié à mes parents.
Récréation sonore.
La genèse de cette pièce se trouve dans mon histoire familiale. Mes parents étaient au sanatorium des étudiants, dans la Creuse, qu'ils m'avaient décrit comme un lieu de soins, bien sûr, mais aussi de communauté, de solidarité, d'éducation, d'activité, de rencontre. Quand le Covid est arrivé et que j'ai constaté sur mes enfants l'impact de l'isolement induit par le confinement, le contraste du dispositif social mis en œuvre m'a frappé. Isolement pour le Covid, rassemblement pour la tuberculose. Là où mes parents, loin de leur famille, ont fait des rencontres de gens de leur âge, nos enfants s'ouvraient de l'isolement, de la rupture avec l'école, leurs amis, leur vie quotidienne, au profit d'un repli en famille. J'ai alors eu envie de recueillir et croiser ces paroles. J'ai travaillé avec des lycéens d'une terminale théâtre de Guéret et avec leur professeur Emeline Monville. Et je suis allée rencontrer d'anciens malades tuberculeux ayant vécu au sanatorium de la Creuse et qui m'ont livré une parole rare. Cette rencontre virtuelle, à 70 ans d'écart, a donné les essoufflés.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Si vous souhaitez écouter une autre de mes créations, de 2025 celle-ci, vous pouvez aller sur le site de France Culture, émission L'Expérience. Ma création s'appelle La vie à vif, huis clos pour un sevrage. Bonne écoute.
Thank you. Pour finir, je vous propose d'écouter Souffle 2, le dernier mouvement de l'œuvre de Pierre-Henri, Le Voyage, composé pour le ballet éponyme de Maurice Béjart. L'oreille perçoit à nouveau le vent aigu de la réalité. L'être retrouve une terre hostile et dure. Le souffle reprend possession des os et de la chair. La respiration s'accorde au vent démentiel. La mémoire disparaît. Voilà, c'est fini pour ce soir. Toutes les informations sont sur la page de l'émission, sur le site de radiocampusparis.org. Vous pourrez réécouter cette émission mardi à midi sur Radio Campus Paris ou sur toutes vos plateformes de podcast. La semaine prochaine, pas d'émission, et je vous retrouve le 11 mai avec une œuvre de Léo Berthe, temps additionnel, qui nous emmènera à Lisbonne. Bonne semaine !